Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Tout le monde arrive avec l'idée qu'il vient dans un endroit très spécial, qui va changer sa vie. Et quand la première chose que vous voyez, ce sont tous ces gens qui font la queue pour pouvoir rentrer dans le camp, et qu'ensuite vous voyez le stand à pizza en face, et puis ces filles qui font du business et racolent des voitures pour les parkings concurrents, si vous n'avez pas une forte conscience que ce que vous faites est important, vous pouvez aussi bien laisser tomber. Bonjour Jonathan Ayoun.
Bonjour.
Nous vous avons invité à Mémoire Vive pour parler de votre documentaire qui s'intitule « Sauver Auschwitz ». Et nos auditeurs auront compris que cet endroit très spécial là, que j'ai mentionné, c'est le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. J'ai cité d'ailleurs le propos liminaire de l'historien canadien Robert John Van Pelt qui ouvre votre documentaire. Cet endroit donc, à côté duquel vivent des Polonais, hein, à quelques mètres du camp, c'est là qu'environ 1 100 000 personnes ont été assassinées entre 1941 et 1945, à 90% des Juifs. Alors, Sauver Auschwitz, c'est un documentaire qui est produit par Effervescence Productions, hein, dont la présidente est Simone Harari, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et qui sera diffusé le 24 janvier sur Arte, à 22h35, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est pas seulement un documentaire sur l'histoire de ce camp, sur les différentes querelles de mémoire dont il a fait l'objet, les différentes tentatives d'appropriation, les différentes instrumentalisations, mais c'est aussi un film qui pose la question de son devenir actuel face notamment au tourisme de masse, hein, aux menaces aussi de l'urbanisme environnant, en fait à la tentation de faire disparaître de nouveau, hein, comme les Allemands en avaient le projet, ce lieu clé du génocide dont l'existence même sonne comme un reproche adressé à l'Occident, un rappel de ce crime majuscule qui s'y est perpétré. Bref, quel futur pour ce lourd héritage? C'est la question que vous posez. Jonathan Ayoun, vous avez été président de l'UEGF, de l'Union des étudiants juifs de France, entre 2011 et 2013. J'imagine que vous vous êtes rendu à Auschwitz dans ce cadre. Comment est né en fait le projet de ce film?
C'est exactement dans ce cadre-là, lors d'un voyage de l'UEGF, où en me rendant donc pour la première fois sur le lieu, j'étais choqué. Sidéré, cela ne correspondait pas à la représentation en tout cas que j'en avais. En arrivant, j'ai vu à la fois ce tourisme de masse, je nous ai vu devoir visiter le musée d'Auschwitz à pas de course, de manière précipitée, de devoir aller d'une salle à l'autre sans avoir le temps de s'y attarder comme en réalité cela est nécessaire. Et puis j'ai également vu certains lieux clés de la Shoah au milieu d'habitations. Je ne savais pas que Auschwitz-Birkenau était également une, voire plutôt deux villes, et que le camp se trouvait à l'intérieur de ces villes-là, et que l'urbanisme en effet est présent, mais même grandissant, puisque de nouvelles maisons se construisent. Et c'est à partir de ce constat-là que je me suis intéressé à l'histoire du lieu d'Auschwitz après Auschwitz, de 45 à nos jours, et que j'ai désiré en parler et participer en amenant une pierre à l'édifice du travail de beaucoup pour la sauvegarde de la mémoire de ce lieu et lui donner tout son sens.
Et pourtant, vous avez effectué cette visite dans les meilleures conditions, on pourrait dire, puisque c'est dans le cadre de visites organisées par, j'imagine, l'UEGF même, enfin la communauté en tout cas, c'est pas les tours opérateurs qu'on peut voir,
tout à fait,
les Japonais qui font ça dans le cadre d'une visite de la Pologne ou des lieux emblématiques de l'Europe.
Oui, j'y étais et j'ai eu la chance de le visiter avec Béatrice Prasquier et Marcello Pezzetti, deux historiens du lieu qui font en sorte que, en tout cas, à l'UEGF et même d'autres cadres de voyage venant de France, on y passe plus d'une journée, donc on y est resté plusieurs jours, mais il n'empêche qu'on se sent tout de même de trop pendant ces visites-là, même quand on est dans un cadre pédagogique approprié. Donc c'est aussi donc à partir de ce ressenti-là que tout d'abord nous avons réagi à l'époque, notamment une tribune dans le journal Le Monde, et qu'au fur et à mesure on se rend compte que malgré ces différentes indignations, la Pologne, en tout cas certaines autorités locales polonaises, continuent de nier la présence de ce camp et de faire en sorte que la vie reprenne le dessus, alors que la vie doit continuer à perdurer dans les différents endroits comme dans cette région, et quelque chose de tout à fait respectable, que cela se fasse en concurrence ou contre la préservation de ce camp comme musée ou comme lieu de mémoire, cela est plus interpellant.
Alors, vous montrez que dès 1947, en fait, se pose la question déjà de qu'est-ce qu'on fait de ce site ? Quel sens on lui donne ? Quelle vocation il doit avoir ? Est-ce qu'on en fait un musée ? Est-ce que il y a différentes questions que vous posez au début du film. Est-ce qu'il faut le sanctuariser ? Est-ce qu'il faut l'abandonner ? Et que toutes ces questions vont être au cœur d'une guerre des mémoires, en fait, qui continue presque aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on peut revenir en fait sur cette histoire de la cette histoire du camp, enfin en tout cas de son les différents projets.
La question en effet que faire d'Auschwitz est apparue immédiatement, voire même avant même la libération du camp. Déjà des rescapés, enfin à l'époque des déportés, se posaient la question de ce qu'ils allaient en faire après. Et la question n'a jamais cessé de hanter le lieu jusqu'à aujourd'hui. Mais il se trouve qu'en effet, les affrontements autour de la préservation du lieu et du sens mémoriel à lui donner est apparu dès le début, puisque on voit avant même 47, dès 45, des rescapés reviennent vivre dans le lieu pour le préserver et se mettent à organiser une vie et même un service d'ordre pour empêcher les fouilleurs, les orpailleurs de venir la
rencontrer. Alors ça, c'est un point, j'aimerais bien que vous le développiez un tout petit peu, parce que je ne sais pas s'il est très connu, en fait. Il est occulté tout simplement parce qu'il est tellement terrible, l'histoire de cette ruée vers l'or auquel on a assisté, sur d'autres sites, d'ailleurs, à Sobibor aussi, c'est le cas. Alors Treblinka, je ne sais pas, mais au moins Sobibor...
À Treblinka également, Yann Gross a consacré un livre d'ailleurs aux fouilleurs, aux orpailleurs à Treblinka qui s'appelle Moisson d'or, où d'ailleurs même l'armée rouge qui était encore présente participait aux fouilles alors qu'ils étaient censés les empêcher, mais au bout d'un moment ils fouillaient carrément avec ces orpailleurs, ces chercheurs d'or, et à Auschwitz n'a pas été épargné par ce phénomène là.
C'était des gens qui étaient animés par le préjugé que les Juifs avaient plein d'or, c'est ça, et que les avaient cachés avant de mourir.
Tout à fait, et c'est quelque chose qui est encore présent quand on parle avec les habitants d'aujourd'hui, cette idée de dire qu'il y aurait un trésor quelque part caché, et s'il y a des Juifs, c'est qu'il y a de l'or, et donc les gens fouillaient à l'intérieur du camp, venaient le dimanche pour les habitants du coin, mais il y a même eu des groupes organisés qui venaient habiter, qui créaient des sortes de villages précaires autour du camp pour le faire de manière très méthodique et scientifique en continu. Et donc des rescapés sont restés sur le lieu pour empêcher ces pillages. Des déportés politiques polonais,
déportés
tout à fait. Des prisonniers du camp d'Auschwitz I sont restés pour préserver, et c'est notamment par leur action que donc toute une partie des objets ayant appartenu aux victimes qui étaient à Birkenau, qu'on peut aujourd'hui voir à l'intérieur du musée, que ce soit les restes de cheveux, les objets, les vêtements, les prothèses, ont été préservés. Mais après, donc, le gouvernement a décidé de prendre part à la préservation du lieu et d'en faire un lieu politique. Et donc, en 1947, a été décidé de se créer un musée d'État sur le lieu, et aujourd'hui encore, le lieu porte ce nom-là, c'est-à-dire le nom d'un musée, ce qui aussi pose question.
Oui, c'est vrai. Alors, vous dites que le musée d'Auschwitz, donc, qui devient donc musée d'État en 1947, est mis au service de la politique de la Pologne. Quelle est-elle en fait à ce moment-là ? Quel but y sert politique justement
La Pologne est ravagée. Les Polonais ont vécu des souffrances terribles. Et à ce moment-là, l'objectif du gouvernement est de mettre un baume sur ce qui s'est déroulé et de ne pas interroger non seulement la responsabilité des Polonais, ni même de parler de ce qu'ont vécu une partie d'entre eux, c'est-à-dire les Juifs, qui ont été exterminés dans ce pays même. Donc à ce moment-là, le gouvernement polonais veut faire de ce lieu à la fois le lieu du martyrologue polonais, donc un lieu au service du nationalisme et pour aider le pays à se reconstruire, mais donc en gommant la partie juive, qui est la partie essentielle de ce qui s'est déroulé à l'intérieur d'Auschwitz, et également de glorifier les faits de résistance qui ont notamment eu lieu, c'est vrai, dans la région autour d'Auschwitz, mais qui sont minimes au regard du reste, mais c'est cela qui est aussi mis en avant.
Au point que donc le Premier ministre Sienkiewicz, c'est ça, fait inscrire, ça y est toujours, je crois, la plaque, le chiffre de 4 millions de victimes.
En effet, le Premier ministre polonais, quoi, voilà, sans identité, l'identité des victimes est gommée et le chiffre est surévalué puisque c'est 4 millions. Aujourd'hui, on sait que c'est 1,1 million de victimes à Auschwitz. Aujourd'hui, les plaques ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les plaques ont été rectifiées. Il est même indiqué que la majorité d'entre elles sont juives, mais pendant longtemps, même très longtemps, jusqu'à, je pense, dans les années 90, ces plaques-là étaient celles visitées donc par les
visiteurs.
Voilà. Et cela, c'était à ce moment-là, non seulement pour l'inscrire dans la politique polonaise, mais plus généralement dans l'idéologie communiste. Donc c'était, d'ailleurs, ce chiffre-là a été décidé par une enquête soviétique, puisque à ce moment-là, la Pologne, avec l'URSS, voulait mettre en avant le fait que les victimes du nazisme étaient des antifascistes internationaux, donc il ne fallait pas spécifier la part génocidaire de l'action des nazis à l'intérieur d'Auschwitz, qui est pourtant l'action première. Et donc, pour servir la politique soviétique communiste à ce moment-là, on a occulté le génocide des juifs, puisque ce même premier ministre, lors de la plus grande commémoration organisée aux juifs jusqu'en 95, en 1967, a fait un discours de plusieurs heures sans même prononcer le mot juif, ni indiquer qu'il y a eu un génocide.
Et alors, quand est-ce qu'on va se mettre véritablement à prendre la mesure finalement de la spécificité non seulement du génocide juif, mais du fait que Auschwitz c'était un centre de mise à mort des juifs, quoi, principalement. Parce que même ceux qui d'ailleurs, beaucoup ont pu y séjourner comme dans un camp normal, comme dans un camp de concentration, mais le camp d'extermination était de Birkenau était voué quand même à la mise en œuvre, la solution finale.
Dans le film, nous racontons qu'à deux moments paradoxaux quelque part, c'est par d'autres tentatives d'instrumentalisation, celle de christianisation du lieu par un mouvement religieux mené notamment par des carmélites qui se sont installés à l'intérieur du camp, qui ont installé un couvent à l'intérieur d'Auschwitz, et un peu après par l'action des négationnistes qui ont voulu se servir des chambres à gaz d'Auschwitz pour leur faire dire autre chose que la vérité, c'est-à-dire que cela n'avait pas servi à l'extermination des juifs. C'est par ces deux actions-là, ces deux détournements du sens que un réveil
s'est
développé
à l'Ouest. Les juifs vont se mobiliser pour défendre finalement la spécificité.
Tout à fait, c'est cela qui a alerté. Et puis après, il y a tout le contexte historique. Avant 89, il était compliqué pour les visiteurs de l'Ouest de se rendre à Auschwitz. Et donc après, avec les premières visites, la prise de conscience de ce qui en a été fait s'est développée et des actions ont été menées. Donc avec l'affaire du Carmel d'Auschwitz et le développement du négationnisme au début des années 90. Donc c'est quand même assez tard. Si on voit à l'échelle de l'histoire du lieu depuis 1945, c'est à partir des années 90 qu'il y a un véritable souci des années 80-90, un véritable souci sur le devenir du lieu et lui permettre de être réhabilité dans son sens premier, c'est-à-dire dans son histoire première, celle de l'extermination des juifs.
Et vous citez notamment cette phrase d'Elie Wiesel qui, lors d'une commémoration internationale, puisqu'il devient donc à ce moment-là un lieu de grande commémoration. Il dit à ce moment-là « Not all the victims were Jews, but all the Jews were victims ».
C'est
pas ce qu'on entendait jusqu'à présent.
Voilà, c'est en 1995 qu'il prononce ce discours-là lors de la commémoration. Et c'est quelque part, dans le film, on le voit en réponse au discours de Sirankiewicz en 67, qui lui ne prononce pas une seule fois le mot juif et ne précise pas qui ont été les victimes. Et l'identité des victimes est rétablie en 95 au même endroit par un discours d'Elie Wiesel.
Alors attendez, qu'on traduise en français.
Toutes les victimes n'étaient pas juives, mais tous les juifs étaient victimes.
Exactement, et que je ne me trompe pas dans le syllogisme. Vous revenez donc, on en a parlé de façon assez étendue, je trouve, et c'est très intéressant sur l'affaire des Carmélites. Vous montrez à cette occasion tout l'antisémitisme qu'il y a aussi derrière cette appropriation du lieu donc par 8 religieuses qui vont créer un couvent qui s'installe dans un local où étaient stockées d'ailleurs les boîtes de Cyclone B. Et à ce moment-là, il y a même des militants catholiques qui vont venir, sorte de milice comme ça, un peu défendre les carmélites. Et vous avez des archives là formidables, au sens très intéressantes qui... On voit donc ces militants qui disent « Non, les Juifs ne gouverneront pas la Pologne ». Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une survivance de l'antisémitisme qui prend différentes formes. La négation, comme vous avez dit, ou la dilution de la... de la spécificité du génocide.
Et l'antisémitisme qui est exprimé par ce mouvement des défenseurs de la croix, qui donc installe des croix tout autour du Carmel pour empêcher qu'il soit déplacé, puisque la polémique a explosé dans le monde entier à ce moment-là. Ce mouvement des défenseurs de la croix, composé notamment d'habitants du coin, était animé en effet d'un antisémitisme assez virulent et un antisémitisme polonais, dans le sens où, ce qu'on voit moins dans le film, mais il développe, si on est à la fin des années 80, donc la fin du communisme, aussi l'antisémitisme prenait aussi un des nouveaux visages à l'intérieur de la Pologne, de judéo-communisme. Donc comme si le communisme était l'œuvre des juifs et les exactions communistes étaient portées par les juifs, donc ils en avaient la responsabilité. C'était aussi une nouvelle manière de s'attaquer aux juifs, de faire sortir les croix qui étaient souvent mis en retrait pendant la période communiste, et la manière de les faire sortir, c'est aussi en tapant sur les juifs.
Sorte de national catholicisme, quoi, en quelque sorte, sur fond de retour du catholicisme. Alors, vous rendez plutôt justice à l'action de Jean-Paul II, en montrant que lui, au contraire, a été très fin, puisque sa visite, qui fait date de février 1979, c'est bien ça, oui.
Oui, tout à fait.
Il célèbre une messe sur le lieu en rendant hommage à Edith Stein, donc une carmélite, juive au départ, convertie au catholicisme. Catholicisme, qui était donc carmélite, et c'est le premier finalement évoquer à travers elle la tragédie de la Shoah.
C'est en tout cas dans une grande commémoration à l'opposer clairement, tout en évoquant, en rendant hommage à Edith Stein. Il voulait aussi à la fois parler du martyr catholique, du martyr juif, donc il voulait réunir ça dans une idée politique, en effet, qui pouvait avoir sa pertinence. Aujourd'hui, avec le recul, si on revoit le déplacement du pape, on serait tout de même scandalisé, puisque faire une messe à Birkenau, sur le lieu de l'extermination des juifs, c'est quand même pas rien. Mais à l'époque, cela n'a pas choqué. Cela n'a pas choqué.
J'étais content qu'on aille à Auschwitz, en fait. Que le pape se déplace à Auschwitz, c'était déjà tout un
symbole.
Tout à fait.
Aussi,
et c'était en opposition avec la manière dont le gouvernement polonais à l'époque le faisait. D'ailleurs, il était en conflit ouvert avec eux, puisqu'il est plutôt connu pour avoir lutté contre le communisme que l'inverse. Mais malgré lui, en laissant d'ailleurs la croix qu'il avait utilisée pour faire son discours, eh bien des carmélites se sont sentis autorisés à s'installer à Auschwitz. Elles l'ont fait parce qu'elles disaient appartenir au même ordre qu'Edith Stein. Donc c'était en hommage à cette figure-là. Mmh. Donc sa tentative, quelque part, de renforcer le dialogue juif-catholique a produit exactement l'inverse.
Le contraire, oui. Donc après 11 ans de polémique et donc l'intervention personnelle de Jean-Paul II, qui a dû demander à chaque carmélite de partir, donc finalement, cette mésaventure prend fin. Et là, vous dites que s'ouvre une nouvelle période, en fait, où Auschwitz, alors sous l'influence de notamment des anciens rescapés juifs, c'est l'influence d'Israël, la marche des vivants. Auschwitz devient alors un outil vraiment pédagogique de transmission de l'histoire, et donc le lieu des grandes commémorations internationales. Alors là, je voudrais qu'on évoque un peu un aspect de votre film intéressant. Alors surtout pour tous les visiteurs qui, comme moi, sont passés complètement à côté pour cause de ces deux lieux de mémoire particuliers, qui sont la chambre à gaz numéro 1 et donc la Judenramp, c'est-à-dire l'endroit où les juifs descendaient du train et où avaient lieu les sélections. Puisqu'on sait que c'était pas, à part en 44, à la toute fin, c'était pas non pas à l'endroit, à l'entrée de Birkenau, mais en amont, à quoi, 2 km du camp peut-être ?
Ah non, même pas, 300 mètres.
300 mètres, d'accord. Mais deux endroits que moi, personnellement, je n'ai pas visités, qu'on ne m'a pas fait visiter.
C'est des endroits qui ne sont pas intégrés dans l'espace délimité par le musée. Donc, c'est des endroits qui ont été rendus aux communes locales et qui, donc, aujourd'hui, font partie de la ville, enfin, des villes. Et c'est grâce au travail, donc, dans les années 90, de l'historien italien Marcello Pezzetti et de l'historien français Serge Klarsfeld, que ces lieux-là ont pu être identifiés et qu'un combat a été mené pour qu'ils puissent retrouver leur mémoire. Puisque la chambre à gaz que vous mentionnez, numéro 1, le bunker 1 à Birkenau, la toute première, était redevenue eh bien une maison, puisqu'elle avait été une maison transformée en chambre à gaz. C'est une chambre à gaz qui a ensuite été retransformée en maison par les descendants des propriétaires. Et il a fallu tout un travail pour réussir à l'identifier, donc mené par Marcello Pezzetti, et puis ensuite tout un combat mené cette fois-ci par Richard Prasquier pour eh bien que ça redevienne un lieu de mémoire, que ça devienne un lieu de mémoire, et que cela ne soit pas totalement occulté, parce que ce n'était pas la volonté ni des villes, ni du musée, de redonner sens à ce lieu et rappeler ce qui s'y était déroulé.
C'est saisissant d'ailleurs les images où on voit, vous accompagnez Marcello Pezzetti, et il raconte comment tout d'un coup un ancien des Sonderkommando, donc ceux qui étaient chargés d'évacuer les cadavres de la chambre à gaz et puis ensuite les mettre au four, tout d'un coup dit mais c'est là quoi, c'est cette maison là, ce pavillon modeste, c'était là quoi. Et donc là, Richard Prasquier.
Oui, puis on voit qu'aujourd'hui, on n'y accède toujours pas, en fait. Qu'à part en demandant des autorisations spéciales, c'est compliqué d'accéder d'aller se recueillir sur ces plaques, en fait.
Aujourd'hui,
puisque la porte est fermée, le grillage, il y a pas celle. Alors juste, Richard Prasquier, donc vous le racontez, a acquis personnellement la maison, donc avec ses propres deniers, pour en faire don au musée, mais elle a été finalement détruite.
Et à la place,
il y a trois stèles derrière un grillage auquel, le jour où en tout cas vous avez filmé, ce n'était pas accessible.
Mais à chaque fois que j'ai pu m'y rendre, et de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, il est toujours impossible d'entrer à l'intérieur. Mais ce qui est aussi saisissant à ce moment-là, lors du retour sur le lieu aujourd'hui avec l'historien Marcello Pezzetti, c'est également de se rendre compte que si certes l'endroit aujourd'hui n'est plus habité, autour se sont construits des maisons. Et autour, cela veut dire sur les endroits des fosses communes, aujourd'hui, il y a des maisons de Polonais. Et que donc, ce lieu-là, premier de la Shoah à Birkenau, est dans un lieu, dans un quartier d'habitation. C'est vrai que c'est assez saisissant, malgré toutes les interventions par le passé. Et ce constat-là, et c'était ça qui était aussi important de dire dans le film, c'est que ce constat-là, aujourd'hui, on a l'impression que tout est préservé, tout est sanctuarisé, qu'il n'y a plus de problème et que visiter Auschwitz est quelque chose de, à la fois banalisé par le tourisme de masse, mais quelque chose de possible sereinement si on veut le faire dans le respect de l'histoire. Or, ce n'est pas le cas, puisque certains lieux, et c'est donc deux lieux clés, sont dans des lieux habités. Cela n'est pas le cas aussi parce qu'il y a une volonté politique de la Pologne de ne pas respecter la zone de silence imposée par l'UNESCO, puisque normalement, pour un tel lieu, il y a ce qu'on appelle une zone tampon, une zone qui permet visiter ce lieu normalement et de le séparer, de séparer les lieux de vie des lieux de mort.
Le lieu est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, donc qui impose un certain nombre d'obligations qui ne sont pas respectées. Ça, vous le montrez très très bien. Alors, justement, à propos de la Judenramp, vous êtes allé interviewer une famille qui s'est installée dans un lotissement tout neuf, juste à côté, face à cet endroit, et qui... de toute façon, ils sont totalement inconscients, on a l'impression de ce qui s'y passe. Ils se plaignent, la maîtresse de maison se plaint qu'ils sont très heureux d'être là, que pour rien au monde ils iraient habiter ailleurs. Mais bon, c'est vrai que les touristes ont tendance à marcher n'importe où. D'ailleurs, les cars de touristes sont interdits dans la zone, ce qui fait que du coup, elle est moins visitée qu'ailleurs.
Oui, l'image
est... montrer comment l'urbanisation et la ville pousse à grignoter, essaie de grignoter
l'espace du camp qui n'a pas été préservé.
Et ce conflit de mémoire là ce conflit entre Auschwitz, le camp, et Auschwitz, la ville, ça c'est aussi une des axes intéressants de votre documentaire, puisque vous revenez même sur les années médias d'après-guerre, le développement, l'essor d'Auschwitz, qui devient une ville industrielle importante en Pologne.
Oui, il y a eu un plein. C'était une ville avec un boom économique dû à l'utilisation de l'usine qui avait des contenus par les détenus, l'usine de Buna. Et c'est en utilisant cette usine, en produisant la même chose que les nazis produisaient à l'intérieur, c'est-à-dire du caoutchouc synthétique, que la ville a pu se développer. Donc, en réalité, même l'origine de ce grignotage est une instrumentalisation, une utilisation du lieu. Et c'est vrai que cette scène-là, devant la Judenramp, donc pour cela, la représenter en images. On voit les wagons qui ont été restaurés et les rails qui ont été posés faire face à une maison toute jaune avec balançoire et toboggan. Et c'est la cohabitation le contraste donné par ces deux lieux-là, un lieu de vie, un lieu qui vient rappeler la mise à mort, avec laquelle on doit faire aujourd'hui. Mais la question aussi que nous voulons poser, c'est jusqu'à quand faire avec cette cohabitation et pourquoi le l'UNESCO ne fait pas respecter la zone de silence.
Et, même pour la restauration de la Judenraum, moi je me souviens à l'époque à la Fondation, puisqu'on avait soutenu cette réhabilitation grâce à Serge Klarsfeld qui avait proposé ce sujet, il était question que les visites commencent par la Judenraum, parce que notamment pour tous les Français, c'est là que sont arrivés les Juifs déportés de France. Et en fait, finalement, quand on demande spécifiquement des autorisations, ils permettent, mais aujourd'hui, c'est toujours pas le parcours normal ou celui qui est proposé par les Polonais, quoi.
C'est vrai, quand vous avez interviewé le maire d'Auschwitz et celui de Birkenau, comment s'appelait la ville en
Polonais ?
Bzeginka. Et tous les deux, quand même, se lavent les mains de l'histoire, parce que vous rappelez quand même que Auschwitz, c'était en 1939, plus de 50% de la population est juive, quand même. Donc c'est une ville juive que les juifs appelaient Auschwitz, la ville accueillante. La plupart d'ailleurs ont été assassinés à Auschwitz après plusieurs. Être passé dans différents ghettos, etc. Donc il y avait 7500 habitants, et c'est vrai que j'imagine qu'il n'y a pas une plaque dans la ville pour rappeler.
Depuis peu de temps, il y a même un musée juif à l'intérieur de la ville, mais qui est peu visité, peu mis en avant, et qui a été financé par des organisations, je crois, françaises ou américaines. Mais en effet, l'ironie de l'histoire est que la ville de Chizim, qui a été utilisée pour devenir le camp, était une ville juive. Même le maire était converti au catholicisme, mais était juif jusqu'en 39. Donc,
parce que l'argument des maires aujourd'hui, c'est de dire, mais finalement, ce qui est vrai d'une certaine façon, les habitants n'y sont pour rien. Laissez-nous construire, nous étendre, construire un centre commercial dans la zone de silence.
Tout à fait, eux, ils défendent le développement de la ville.
C'est ça.
Ils aimeraient être une ville normale. Je me souviens qu'un des maires me disait, nous, on peut pas avoir le porte-clé au nom de la ville parce que ça ferait bizarre. Mais on aimerait être normalisé. Donc ils aimeraient normaliser quand même le lieu.
Plein d'autres villes d'ailleurs qui.
La question
se pose. Mais en même temps, ils en tirent profit aussi, j'imagine, de cette. Non, pas vraiment eux.
Le déni et la volonté de
ne. Parce que 2 millions de visiteurs par an. Il n'y a pas quelques retombées locales quand même.
Il y en a, mais ils n'ont pas, par exemple, voulu construire un certain nombre d'hôtels à l'intérieur de leur ville. Ils ne veulent pas que leur ville soit un lieu d'accueil des visiteurs, puisqu'ils veulent se développer de manière normalisée, banalisée.
Bon, donc, ce qui n'est pas plus mal aussi, d'une certaine façon.
C'est vrai.
Ils n'essayent pas forcément de faire de l'argent là-dessus.
Leur argument le plus dur et le moins recevable, c'est de dire « mais cette ville existe depuis des siècles ». Et les habitants sont là depuis des siècles. Or, non, puisque la majorité des habitants étaient juifs, et que les habitants qui vivent aujourd'hui à Auschwitz, pour la plupart, sont arrivés grâce à l'utilisation de l'usine qui y était. Voilà un peu dans quel cercle et tourbillon de sens nous sommes quand nous nous posons ces questions-là.
Donc ils tournent le dos à leur propre histoire, finalement, aussi. Merci, Jonathan Ayoun. Je rappelle donc le titre de votre film « Sauver Auschwitz », donc qui sera diffusé lors d'un thème, d'une émission spéciale sur Arte le 24 janvier à 22h35. Il sera précédé de la diffusion d'un film sur les Klarsfeld. J'invite nos auditeurs à le voir. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.